À l'évidence, dans une première écoute des textes de ce dimanche, beaucoup parmi nous sont surpris par leur style quelque peu abscon, voire obscur. En fait, les passages bibliques de ce dimanche nous replacent devant ce que l'on appelle, dans la tradition de l'Église, les fins dernières. Et précisément, la fin des temps est une méditation que l'Église a toujours proposé en conclusion d'une année liturgique. Nous arrivons au terme de notre année liturgique. Nous aurons dimanche prochain la fête, la solennité du Christ roi, puis nous entrerons ensemble dans une nouvelle année liturgique. Alors voyons ensemble de plus près ce que nous dit l'Évangile ce soir. Dans un premier temps, nous pouvons trouver insolite ce passage rempli de prédictions menaçantes. En réalité, Marc s'adresse à des disciples déjà initiés à l'essentiel de son message. Et il rappelle ce que Jésus, devant l'imminence de sa mort, avait essayé de le révéler dans le style imagé de l'époque. Oui, cet extrait s'inscrit dans un tournant de la vie de Jésus. Nous pourrions dire que le temps de la paisible annonce de la bonne nouvelle est fini. Il y a désormais une urgence. En effet, les ennemis, c'est-à-dire ceux qui, dans une approche dévoyée de la parole et de la tradition, cernent Jésus et veulent l'acculer à une mort certaine, Jésus le pressent, il le ressent. Et le débat qui traverse tout l'Évangile s'accentue dans le résumé d'une question qui pourrait être la suivante, mais qui est ce Jésus de Nazareth? Et à partir de ce moment-là, Jésus donne des éléments clés de compréhension. En effet, le jeune rabbi humble et si proche des gens est en même temps l'égal du Père. Et son retour, il le fera avec grande puissance. C'est son expression. Et il précise même, il viendra sur les nuées. C'est-à-dire, pour reprendre une image biblique, remplie de cette présence de Dieu. Et au bout du compte, annonce Jésus, c'est lui-même qui nous jugera, tout à la fois dans l'amour et la miséricorde. Et ici, en cet instant, nous avons Jésus qui est à la fois pleinement homme et qui se présente comme étant pleinement Dieu. Alors, regardons. Comme la vie quotidienne de tout à chacun, la vie de Jésus s'est d'abord passée tout simplement, très modestement, très humblement, on pourrait dire de façon insignifiante. Rien en apparence d'extraordinaire le distinguait. Souvenons-nous, le bienheureux Charles de Foucault, en allant après sa conversion vivre à Nazareth, écrira qu'il voulait rejoindre la vie cachée de Jésus. Mais en même temps, en vivant un lien d'amour avec son Père, Jésus préparait activement, au travers de toutes les joies et les peines d'une vie humaine, cette vie nouvelle et divine à laquelle il vient nous appeler. Et notons bien que même Jésus, dans sa soumission filiale à son Père, ne sait pas, avant sa mort terrestre, l'heure de son retour. Répétons-le, Jésus est très clair, nul ne sait l'heure. Et donc nous sommes invités instamment, frères et sœurs, à arrêter de spéculer sur la fin des temps, sur la fin du monde. Dieu seul le sait, Dieu Père seul le sait, car il est le maître du temps. Alors concrètement, ça implique deux conséquences pour notre vie spirituelle. Premièrement, puisque cela ne dépend pas de nous, puisque nous n'avons pas ce pouvoir en main, pourquoi nous inquiéter de la fin des temps? Et deuxièmement, agissons en apportant notre humble mais réelle contribution à la construction d'un monde plus fraternel, ici et maintenant. Et concrètement, à ce sujet, il y a deux niveaux sur lesquels nous pouvons agir. Tout d'abord, le pape François, avec beaucoup d'insistance, rappelle tous les enjeux environnementaux et toutes les conséquences des gaspillages des réserves naturelles. Souvenons-nous de sa magnifique encyclique, Laudato si. Ensuite, il y a toutes les détresses humaines, psychologiques, dont nous pouvons être les témoins. Dans une période de profonde mutation sociétale, civilisationnelle, nombreux sont nos contemporains qui ont le sentiment douloureux de la fin d'un monde, de l'écroulement d'un temps, de tout ce à quoi ils tenaient. Et nous devons être des veilleurs d'espérance. Et à ce sujet, faisons une simple comparaison. Peu à peu, nous entrons dans la période hivernale. Et il nous suffit de contempler la nature pour observer qu'elle nous rappelle que tout est éphémère, inscrit dans la finitude. Or voici que Jésus nous dit dans l'Évangile, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Là est précisément le cœur de notre espérance. C'est sur le Christ que nous pouvons, que nous devons nous appuyer. Il est notre rocher. À cet instant, nous comprenons bien que toute la liturgie de ce dimanche nous invite à faire un choix fondamental pour orienter toute notre vie. Le choix qui s'offre à nous est celui de croire en Jésus ou de ne pas croire en lui, de croire en sa parole ou de ne pas croire en sa parole. Il est de vivre comme lui ou de ne pas vivre comme lui. Il est de le laisser vivre en nous ou de lui refuser cette hospitalité. Car souvenons-nous de cette maxime, Dieu habite là où on veut bien l'accueillir. Et nous sommes ici, frères et sœurs, pour célébrer avec joie l'Eucharistie. Nous sommes là pour entendre ensemble la parole du Seigneur. Nous sommes là pour célébrer l'Eucharistie et donc faire en sorte que notre cœur soit la maison du Seigneur. Oui, Dieu habite là où l'on veut bien l'accueillir, et il veut nous libérer de la peur, car il nous assure que nous bénéficions de son aide si nous sommes disponibles ensemble à lui. Puisse cette Eucharistie nous faire grandir et dans l'espérance et dans l'unité.